Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Radio Campus Lille 106,6 tous les dimanches de 11h à 12h30. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous écouter sur le www.campuslille.com. Aujourd'hui nous sommes avec Luc. Luc, bonjour.
Bonjour l'ami, bonjour à tous.
Je sais que tu es passionné par l'aventure de notre invité, c'est le pourquoi de ta présence aujourd'hui dans les studios. Alors si tu veux bien, je vais te présenter notre invité.
Je t'en prie, donc
il s'appelle Luc Cotterel.
C'est bien ça.
Luc, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais alors, tu es Dunkerquois.
Dunkerquois.
Ça a été la route aujourd'hui?
Bah, je l'ai fait en voiture.
Ah, tu l'as fait en voiture. Ouais, on remarque avec tout ce que tu as fait en moto.
Il y a eu des difficultés à trouver le métro.
Bon. Mais bon, il est Dunkerquois, mais par contre, Luc, il a fait une aventure extraordinaire, puisqu'il est parti en février. C'est en février 2012.
Février 2012.
Avec ta BM 1150 GS.
Tout à fait.
Alors qu'il était civilisé. Avant et après, elle est devenue incivilisée, hein, parce que j'ai vu les modifs.
Africanisée,
on va dire. Hein, voilà. Tu as fait le tour de l'Afrique d'ouest en est, soit 85 000 km.
Ouais, un peu plus, 87 000.
87 000, excuse-moi, une petite précision un peu. Traverser 37 pays, le Mali, le Gabon, la Namibie, le Zimbabwe, Madagascar, l'Ouganda, etc. etc. C'est incroyable, écoute, nous, on n'arrête pas de lire ton blog depuis une semaine. Tes aventures,
c'est une super aventure.
On reste scotché devant les photos, devant
les vidéos même.
Les vidéos aussi.
Les vidéos, j'en mettais un peu au début et après j'ai dû arrêter parce que les transmissions via les cybercafés, c'était trop long et trop fastidieux.
Voilà, très bien. Donc ça va la remise depuis ton retour, parce que tu es rentré en septembre ici là.
Le 13 septembre.
Le 13 septembre.
Dernier,
septembre ouais.
D'ailleurs beaucoup de copains étaient là pour l'accompagner.
Vous avez fait une petite fête hein, au bistrot là, à Bolzelle autour du monde.
Autour du monde à Bolzelle, ouais, un accueil chaleureux, les retrouvailles se sont.
Les motards sont venus à ta rencontre en fait aussi. Il y avait une
J'ai été sollicité par quelques amis pour venir me rejoindre sur la route et faire mes derniers tours de roue, les derniers tours de roue avec moi et donc ça s'est super bien passé.
Ton aventure, ça s'appelle le grand tout raid.
C'est le grand raid.
Parce que t'es
avec
grand.
Le tout et le.
T'es grand et raid. Enfin, et tout raid, voilà, le grand tout raid.
J'ai souvent le torticolis.
T'es sur le blog, on va dire. Tiens, peut-être, Christine, on peut être.
Les
auditeurs
blog.
Peuvent aller sur le blog en même temps que tu vas décrire. Enfin, tu vas nous parler de ton voyage, quoi.
Hein. D'accord.
Oui, parce qu'en fait, un superbe blog en plus, avec vraiment beaucoup d'images, des textes fabuleux à lire. Vraiment, je vous conseille d'y aller. En suivant notre émission.
Voilà. Bonjour Yanis, je sais que tu étais aussi au courant de la venue de Luc. Tu voulais le voir
bonjour,
de visu.
Je voulais le voir de visu, un grand aventurier comme ça, moi.
Très bien, nous sommes aussi en compagnie d'Éric Lebeau. Éric, bonjour.
Bonjour.
Éric, bonjour. Ça va, tu te sens bien, très bien. Là, micro, chose que tu passes très bien.
Je suis très content.
Voilà. Donc on va dire en gros, vite fait, hein, tu as fait un tour du monde en Harley Davidson, en Road King.
Exactement.
Voilà. Et donc tu n'es pas de la région, hein, tu es du sud de la France.
Oui, je suis venu voir mes amis.
Et là, t'es monté, t'as vu qu'il fait beau hein, dans le nord, tu vois.
Chaque fois que je viens, il fait beau.
Donc tu as sorti un bouquin, un livre, hein, Road Angels,
qui est sorti l'année dernière. Et qui suit un livre de photos qui a été publié dès mon retour de voyage, qui a fait un carton, et donc on a décidé de rajouter aux photos des textes.
Très bien. Eh bien, écoute, en seconde partie d'émission, tu nous raconteras un peu ton voyage, hein, parce que tu étais parti de France, après tu es parti du côté
vers l'Est,
hein, et puis tu as fait tout le tour de la planète.
Voilà, sans carte, sans GPS, direction
sans GPS, l'Est. C'est incroyable.
Hein, direction l'Est.
Très bien. Moi, je vous rappelle que la programmation musicale est signée Laurent Rodier. We'll be right back. Aujourd'hui, on vous emmène faire le tour de l'Afrique avec Luc Cotterelle. Luc, on va commencer par le départ, forcément. Pourquoi décider de partir 2 ans et demi, hein, 2 ans et demi, t'avais prévu le kilométrage 85, je rappelle, 85 000 kilomètres. Hein, c'est pas, t'as usé, je sais pas combien de paires de pneus. Hein, et puis après, quand on lit toute ton histoire, ton aventure sur ton blog, c'est franchement incroyable. Pourquoi partir vivre une telle aventure, surtout en Afrique, avec tout ce qu'on nous raconte sur l'Afrique, nous, ici, quand on reste ici, hein, en France. Là, il faut que tu nous expliques un peu, quand même.
J'avais eu l'occasion d'aller en Afrique, déjà, quelques années auparavant, dans le cadre d'une association humanitaire, et j'étais tombé sur le charme de l'Afrique au Burkina Faso. Après, le départ en Afrique, je pense qu'il y avait un rêve, un désir latent depuis des années de vivre une aventure en solitaire quelque part. C'était pas forcément en moto, c'était pas forcément en Afrique. Et bon, ces différents facteurs associés ont fait qu'un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, si je veux faire quelque chose comme ça, c'est maintenant.
Voilà, toi, c'est comme ça. Toi, tu te réveilles le matin, tu te dis, tiens, je vais me faire 85 000 km en Afrique, d'ouest en est, 2 ans et demi. Voilà. Et le pire, c'est demain matin, hein, lundi. Hein, qu'est-ce que tu vas décider?
Non, c'était pas prévu au départ que tu partes 2 ans et demi.
Non, pas du tout. Quand je suis parti, j'étais parti dans le but de faire le tour de l'Afrique, et je m'étais fixé un délai variable d'une petite année.
Je me vérifiais un peu parce que j'ai quand même lu le blog. Hein, ça m'a pris toute la semaine, hein, parce que t'en racontes. Hein, et puis il y a de belles photos aussi. Donc tu dis aussi, je pense que pour ça, il me faut sortir de ma zone de confort. La zone de confort, c'est de façon à briser la routine et à laisser davantage de plage aux imprévus.
Ouais, bah c'est ça en fait.
Alors, c'est vrai qu'on est tous dans une routine un peu marre, et quelquefois on dit mais je partirai bien un peu comme toi, mais c'est vrai qu'on n'a pas le courage de le faire.
Bah puis j'étais indépendant dans la maîtrise d'œuvre, une profession où tout est calculé, où il y a des plannings, où tout est on doit anticiper sur un tas de choses, et puis il y a un moment où on a un peu le sentiment d'être un peu robotisé, ouais, d'avoir envie de vivre le présent.
Tu dis aussi qu'il faut le faire avant qu'il soit trop tard, parce qu'après il y a rhumatisme, tout le truc, les trucs qui peuvent arriver. Donc il est temps, j'ai 41 ans, il faut que je le fasse.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Alors l'Afrique, parce que tu connaissais l'Afrique déjà.
Je connaissais tout petit peu l'Afrique, et c'est vrai que c'est la terre de l'origine de beaucoup de choses, et puis c'est des gens qui vivent selon des modes de vie ancestraux, et j'étais vraiment attiré par l'Afrique.
Et pourquoi en moto?
Ah bah ça, la
parce
moto.
Que t'as rencontré quelqu'un qui faisait en vélo.
J'ai rencontré pas mal de gens, il y a énormément de gens.
Il y a encore plus. Je vais pas dire quotidien.
Plus cinglé.
Toi, t'as rencontré des gens en vélo qui
Ouais, j'ai rencontré un couple de il devait avoir 65 ans, sur un tandem en plein désert en Mauritanie. Ouais.
En tandem. Ouais. Oui, vraiment des barges.
On croise des énergumènes.
Oui, parce que il y a 3 ans, on a invité Paul-Henri Van der Tournout avec sa sœur Orphélie, qui a fait le tour du monde en Solex.
Ouais. Ah oui, en Solex.
De Saint-Omer, 25 pays, 4 continents, 14 mois, 18 000 km. Un peu moins que toi, quoi.
Alors l'idée, c'est de partir de Dunkerque. Là, c'est tout simple. Hein. Tu prends l'autoroute Dunkerque-Lille. Et là, tu pars après, donc direction après.
L'Espagne. J'ai pris mon temps en France, j'ai fait la tournée des copains, l'Espagne.
Tu mets 2 ans de préparation, hein, quand même, de prépa pour préparer un itinéraire aussi.
J'ai pas préparé d'itinéraire. Je suis parti avec le seul objectif de descendre par l'ouest et de remonter par l'est. Par contre, il n'y avait rien de plus au niveau itinéraire. Par contre, les 2 ans, ça n'a pas été 2 ans de préparation par rapport au voyage, ça a été 2 ans de préparation par rapport à ce que je laissais. C'est-à-dire la clôture de l'entreprise. Il n'y a pas vraiment en dehors de la moto qui a nécessité une grosse préparation, il n'y a pas eu de préparation.
Mais tu avais quand même des contacts dans chaque pays où tu devais séjourner, tu avais quand même une adresse, quoi. Tu avais quand même déjà un contact.
J'avais fait un peu le tour des copains, comme j'avais des amis expatriés en Afrique du Sud, et bon, parmi les relations, j'ai cherché à anticiper sur des éventuels contacts un peu partout. Ouais.
Et à chaque fois que tu séjournais dans un pays, les gens que tu rencontrais te donner le contact
après,
de quelqu'un, de la famille.
Et après,
ou
ça fait boule de neige, on va chez quelqu'un qui donne l'adresse de son cousin qui habite au Gabon, enfin, etc.
Bon, alors après, là, on parle un peu prépa moto. On l'a dit en début d'émission, la GS elle est civilisée, hein, elle est faite pour rouler ici, hein, en France.
Mais c'est même pas une aventure en plus, c'est la GS normale.
C'est la GS normale. Ouais. Et puis quand elle sort de l'atelier, là, elle est faite pour l'Afrique.
Voilà, tout
là,
à
vous
fait.
Avez tout transformé. Avec bon, le gros réservoir chameau, là, je sais pas combien, 40 litres.
41 litres, ouais.
C'est ce qu'il faut, hein, pour là-bas, parce qu'il n'y a pas des stations comme ici.
C'est ce qu'il faut et ça n'a pas toujours été suffisant.
Ah, ça n'a pas été suffisant, bah oui, bah, je me doute bien que là-bas, il ne faut pas tomber en panne.
Ouais, ouais.
Voilà. Sosone manike Fuleni soso Sosone manike Tomani kisi Fuleni soso l'Afrique aujourd'hui sur le magazine de la moto. On part avec Luc Cotterelle. On est déjà parti, enfin on n'est pas encore parti, on est dans les préparations, hein. Il reste à voir encore la santé et les visas. Alors les visas, c'est une galère pas possible apparemment.
Ouais,
avant de partir, il faut quand même prendre...
J'ai pris aucun visa avant de partir, hein. Je suis parti sans visa. Par contre, il faut bien se renseigner sur les endroits où il faut les prendre justement. Par exemple, pour aller en Mauritanie, le seul endroit au Maroc où on puisse faire le visa, c'est l'ambassade de Mauritanie à Rabat. Alors qu'avant, on pouvait le prendre à la frontière. Et ça, il faut bien se renseigner là-dessus parce parce qu'il y a des gens qui se pointent aujourd'hui à la frontière sans s'être informés de détails. Et c'est 4000 km, 2000 km à remonter.
Ah, il faut refaire 2000 km, donc ça fait 4000 en plus. Voilà.
Donc il faut se renseigner simplement sur les endroits où on peut prendre les visas.
Et puis après, la santé, on ne part pas en Afrique comme ça, sans prendre de précautions, les vaccins.
Il y a une préparation au départ, ouais. Je suis allé à l'Institut Pasteur à Lille pour mettre à jour tous les vaccins obligatoires, la fièvre jaune, etc. Et remettre à jour tous les vaccins.
Est-ce que tu as eu des problèmes durant ton voyage sur les 2 ans et demi?
Des problèmes de santé, ouais. J'ai fait 2 crises de palu. Et
oui, j'ai vu un endroit où il y avait t'étais pas bien un peu.
Et puis aussi une grosse infection générale à cause d'une infection urinaire suite aux calculs qui se sont décollés avec les vibrations.
D'accord. Ça on va demander à notre infirmière. Ça arrive ça, les calculs qui se décollent avec les vibrations de la moto.
Ça secoue la BM. Hein.
Voilà. Ouais. Allez, on a fait les préparatifs. Hein. Maintenant, on dit au revoir à la famille.
On dit au revoir.
Là, c'est le moment un peu plus dur, peut-être. On fait la bise à tout le monde.
On fait la bise à tout le monde.
On a réglé les impôts, la facture de téléphone, d'électricité. On a tout fait. On a pensé à tout. Dans la tête, il y a plein de trucs. Tu penses à quoi à ce moment-là, toi?
À partir.
T'es pressé, hein. Ouais. Voilà. Bon, écoute, là on prend le départ. Hein. Tu pars, tu traverses toute la France. Et puis à un moment, tu vas douter quand même. Hein, parce que tu vas arriver du côté d'Orange. Et là, il y a un putain de vent comme j'en avais rarement connu. Hein, c'est ce que tu écris. Hein. C'était plus un temps de faire du sky surf que de la moto. Et là, tu vas t'arrêter et tu vas peut-être. Tu vas te dire je crois que j'arrête. Je déclare forfait.
Ouais, il y a eu un Mistral.
Mais en fait, durant le morceau de musique, tu nous as dit que tu ne te souvenais plus il y a 2 ans, c'était trop loin. C'est ce que tu avais écrit.
Je me souviens du vent, mais je ne me souviens pas avoir écrit que j'allais faire demi-tour. Mais c'était du deuxième degré.
Ça, c'était vraiment du motard. Hein. La moto a vraiment une prise au vent terrible. Quand on voit sur ton blog tout ce que tu avais mis, hein.
La bagagerie, les pneus.
Je comprends que ça devait prendre au vent. Hein. Avec tous les bagages, je crois bien que j'étais jamais resté aussi longtemps au cul d'un camion.
Ouais, je m'étais abrité derrière un camion.
À force de me chiffrer dessus à chaque fois que j'en voulais doubler. Voilà. Bon, ça c'était la France. Je sais pas ce qui nous intéresse, mais finalement on peut toujours douter jusqu'au bout finalement.
Ouais, bien sûr.
Donc là, tu parles d'Espagne. En Espagne, tu rencontres un super un motard,
un biker
de Séville. Ouais, je crois que c'était un membre du club de Faro. C'est un gros club, mais c'est apparemment c'est à Séville.
Ouais, Séville.
Il te fait visiter un peu
son club. Là, son club. C'était vraiment sympa. J'étais accueilli chez lui. C'était vraiment bien.
Et après on traverse le détroit de Gibraltar.
Ouais, on arrive au Maroc.
Voilà. Alors donc là tu mets tes roues sur l'Afrique.
Premier tour de roue sur le continent africain.
J'ai lu aussi le Maroc, tu rencontres un jeune qui te propose je sais pas si c'est au Maroc ou en Mauritanie, je vais peut-être confondre. Le Maroc, tu fais quoi le Maroc?
Au Maroc, je suis descendu. J'ai un ami qui habite à Marrakech, donc j'ai fait une petite pause chez lui. J'avais aussi un contact juste au-dessus de Tanger, là où je suis resté chez lui quelques temps. Et puis après, j'ai décidé de partir plein est, sud-est, pour faire une étape dans la vallée du Dra, là, entre Mamid et Foumsguid, après Ouarzazate, et aussi aller dans la vallée de Todra, Tadès, complètement à l'est, à la frontière algérienne. Et là, c'était ma première expérience dans le sable.
Là donc tu te rends compte un petit peu de la machine, si ça va passer, si c'est trop lourd, c'est pas la peine de continuer, ou il faut changer des choses, ou alléger un peu peut-être.
Et puis mon apprentissage sur le sable, parce que je suis parti dans cette aventure sans avoir jamais eu la moindre expérience de conduite d'une moto.
T'aurais pu aller t'entraîner à Lune Plage, avec ta mère.
J'ai pas anticipé là-dessus.
Et on passe tout de suite en Mauritanie. Alors Mauritanie, tu dis que c'était vraiment pour toi c'était un beau pays.
Mauritanie, j'étais très agréablement surpris par l'accueil déjà, et puis j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens, quelqu'un qui organise des trips en moto dans le banc d'Arguin et qui m'a justement apporté les premiers conseils pour rouler sur le sable. On est parti, j'ai eu l'occasion de me débarrasser de mes bagages pour alléger la moto, et on est parti 4 jours avec des gens dans le désert. C'était vraiment super.
Alors à chaque fois comme ça, tu rencontres toujours des Français, des gens qui connaissent ce pays, qui vivent là-bas aussi. Hein.
En l'occurrence, là, c'était un Français, du moins un Suisse, un Franco-Suisse, qui était organisateur de trip à moto dans ce secteur, et il avait des clients qui étaient italiens. Et j'ai intégré le groupe et on a vraiment passé du bon temps. Ils m'ont appris vraiment à conduire dans le sable.
C'était qui Momo, là, Momo, la douane britannienne.
Ah, chaque passage de douane,
il, ouais, il fait tout.
Il y a des arrangeurs, en fait, des arrangeurs.
Voilà, c'est des arrangeurs, j'ai bien aimé le mot, ouais, l'arrangeur. C'est-à-dire, il fait passer devant tout le monde, quoi.
Bah, c'est-à-dire, ils s'arrangent pour faire en sorte qu'on comprenne vite qu'on va y laisser la demi-journée. Et puis après, il y a le gars qui débarque et qui, moyennant un petit bakchiche, dit, si tu veux, moi, je peux t'arranger le truc, donne-moi les papiers, je vais aller régler ça.
Ça dure qu'une heure.
Et ça dure, ouais, si c'est pas de 10 minutes.
Alors, c'est incroyable, le temps que tu passes aussi, hein, à chaque fois, pour les visas, dans chaque pays, il y a un endroit, tu oublies de refaire le tour parce que t'as pas bien compris le truc. Ouais, et finalement, quand tu retournes, tu dis, j'en ai pas eu, et ils te laissent passer parce que.
Voilà, ouais, ils font toujours mine de rentrer dans des procédures très compliquées, et puis en fin de compte, on se rend compte qu'ils suivent pas les procédures. Donc, ils les connaissent, mais ils les suivent pas. Donc, ils commencent
pour ne pas t'appliquer.
Voilà.
Voilà, maintenant on est en Afrique, on est parti pour ce grand raid, 85 000 km, 2 ans et demi avec Luc Cotterel. Luc, on part tout de suite donc au Tchad.
Ouais.
On t'a demandé un petit peu les pays qui t'ont vraiment marqué, là, ouais, où t'as ressenti vraiment l'émotion à 100%, même à 200%.
Ouais. Ouais, bah effectivement, au Tchad, bon, bah là, j'ai vraiment bouffé du sable au Tchad. Hein. C'est les premiers kilomètres où je me suis vraiment senti seul parce que j'étais vraiment dans le désert et où il a vraiment fallu que je fasse confiance et que je croie en la moto. Et puis c'est là où j'ai les premières casses, la pompe à essence qui a lâché.
Ah oui, t'as toujours des problèmes avec la pompe à essence.
Ouais, hein, la pompe à essence
c'est
a lâché.
Un peu récurrent, ouais.
Alors le souci sur cette moto, c'est que la pompe à essence est immergée, elle est dans le réservoir, donc j'en avais une de rechange, mais bon, c'est pas évident à changer. Donc j'ai réussi à changer, mais je me suis épuisé, je manquais d'eau et j'ai été recueilli par des nomades. Là, j'ai passé une nuit.
Et là, t'as un petit coup de fatigue.
Un gros coup de pompe.
Ouais, un coup de pompe. Ouais. Et là, tu vas te requinquer par les nomades, tu vas passer une nuit ou plusieurs nuits avec eux.
J'ai passé une nuit en plein désert avec des nomades qui m'ont accueilli les bras ouverts, qui m'ont donné de l'eau. Et le lendemain, j'ai été aidé par des militaires en fait, qui m'ont aidé à franchir une dune qui était très impressionnante. Et ils m'ont dit, là, on va te déposer à 40 km à la descente de la dune. Avant d'arriver à Bol.
Ouais. Voilà, on voit la photo sur ton blog. Effectivement, la moto, là, elle est démontée. Hein.
Ah.
En plein désert.
Ah.
Ensuite, on passe au Congo.
Bon, après le Tchad, ouais, il y a eu pas mal d'aventures et de pays. Et j'arrive au Congo. Alors, il y a les deux Congos. Hein, le Congo-Brazzaville, bon, il ne s'est pas passé grand-chose d'impressionnant. Par contre, la République démocratique du Congo, c'est vraiment la partie la plus physique et la plus éprouvante de tout le voyage. Ouais. Parce que là, ça a été entre Kinshasa et Lubumbashi, de 2500 km de boue. J'ai mis plus de 3 semaines à faire ces 2500 km. Et c'est le pays qui m'a le plus touché parce que les gens vivent vraiment dans des conditions. Pour moi, l'Afrique est là. L'Afrique, c'est vraiment le Congo.
L'Éthiopie aussi.
L'Éthiopie, j'ai adoré l'Éthiopie.
Alors on a regardé des photos hier soir, j'ai regardé encore les photos. Il y a de très belles femmes en Éthiopie.
Il y a de très jolies femmes, c'est les plus belles femmes du monde.
Ah oui, les plus du monde.
Mais qui se lavent pas.
Pardon ?
Mais qui se lavent pas, tu me dis.
Ah ouais, c'est pas les mêmes conditions d'hygiène. Hein. Selon les ethnies, elles se maquillent pas, on va pas utiliser le mot maquillage, mais elles se tartinent d'argile rouge régulièrement, mais il n'y a pas vraiment de...
Et à chaque fois, toi, t'es reçu... Comment t'es reçu ?
Comment c'est... Ah, globalement, l'Afrique est un pays où les peuples ont un énorme respect à l'égard du voyageur. C'est des gens qui, eux, à part quelques ethnies comme les Peuls ou des ethnies ou nomades, les gens ne bougent pas beaucoup en Afrique. Et le voyageur est le porteur de messages. Il y a des gens dans des villages, des gens qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, qui n'ont jamais été à plus de 25 km de leur village de toute leur vie. Donc le voyageur qui arrive, c'est vraiment la personne qui va parler de leur continent finalement. Et ils ont un énorme respect à l'égard du voyageur.
Après, t'es passé aussi au Rwanda, alors c'est incroyable parce que là, Rwanda, avec le.
Ouais,
comment ça se passe? Parce que nous, quand on écoute les médias nationaux, ils nous font plus peur qu'autre chose, tu vois. Ils parlent pas du pays. Le truc, c'est de faire peur quoi, aux gens, à nous, on ne bouge pas, on est là sur notre place.
Bah, disons, les médias ne parlent de... Que du négatif et que des guerres et des comme encore actuellement hein. Mais c'est vraiment, je veux dire, il y a 3% de la population qui fait parler d'elle et les 97% qui restent sont des gens accueillants, chaleureux. J'ai jamais eu aucun problème d'accueil dans aucun pays.
Le but aussi c'était d'aller aussi en Afrique du Sud.
Le but, c'est, disons, le but c'était de faire le tour de l'Afrique.
Tu as des amis là-bas qui...
J'avais des amis qui étaient expats au sud de Johannesburg, et donc je me suis arrêté chez eux. Mais bon, le but c'était de faire le tour de l'Afrique, donc de descendre jusqu'au Cap, Cape Town. Et là, c'était le point de demi-tour, et là, je suis remonté effectivement voir mes amis au sud de Johannesburg.
On va pas passer à Madagascar parce que c'est une grosse affaire, ça, Madagascar, parce qu'en plus ça s'est passé, il y a eu trois blancs qui ont été brûlés sur la plage. Évidemment en France, ça a été tout un, encore comme tu dis, on nous fait peur. Hein, alors que toi, t'expliques bien pourquoi ça s'est passé. Il y a des choses à comprendre aussi. L'info, il faut la comprendre. On dit pas qu'une seule partie.
Bien sûr, tout à fait. Ouais.
scene. You told a lie on the pipe of peace. You told a lie on the canvas seed. And we know the blame for the coke disease. Jonestown on a government spy plane, and you blame marijuana for a coke disease. And we know the blame, your GOP. Primo, you're gonna puke and die in pain and misery, while you scholars and pundits won't research or fund it. You just love the lie of the GOP. Bitter for the cruise at sea, and when you smoke in hell, gonna make you spell the name of your party. You're right, GOP.
Alors on a fait une bonne trentaine de milles de kilomètres déjà depuis trois quarts d'heure là. On va arriver à Madagascar parce que effectivement aussi l'Afrique, Madagascar c'est aussi l'Afrique.
Oh, tout à fait, ouais. Là.
Alors, tu dis quand tu arrives à Madagascar, une terre étrange, atmosphère d'insécurité, tu te sens mal à l'aise.
Au début, oui, quand je suis arrivé à Madagascar, d'abord Madagascar c'était pas prévu à mon voyage, ça s'est fait un peu à la dernière minute. Et quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que bon, c'était un pays qui était un peu sans gouvernement depuis déjà plusieurs années, depuis 5 ou 6 ans, où il régnait, d'après les dires des expats qui habitaient sur place et de certains locaux, un état de non-droit où il se passait des choses. Mais en fin de compte, c'est surtout entre eux, il y a aussi beaucoup de problèmes avec les vols de zébules.
Oui, c'est ça, ce que tu expliques justement sur ton blog. C'est que, ouais. Et c'est pour ça, c'est de là qu'il y a eu le massacre des trois blancs, en fait, sur la plage.
Ouais, hein, bon, ça n'a rien à voir. Là, c'est au nord-ouest, à Nosibé. C'est une région qui est tristement réputée pour être une destination de touristes sexuels. Et le problème, c'est que comme c'est un pays énormément corrompu, comme beaucoup de pays africains, la population se rend compte que la police locale tire aussi son profit dans ces histoires. Il y a eu un gros pétage de plomb de la part de la population.
Et là, tu rencontres un autre Luc. Le seul habitant de la ville qui roule en BM.
Voilà,
ça c'est. Et ça se raconte quoi des deux Luc qui roulent en BM? Des histoires de quoi?
Des histoires de Luc et de BM.
Bon, t'as eu des petits problèmes de mécanique sur la route. Donc, une fois, tu restes embourbé dans un guet, pratiquement la roue arrière, on voit la roue arrière. On la voit plus d'ailleurs,
on la voit plus.
Dans l'eau. Hein.
Ouais,
et là, tu vas péter le pont. Regarde, Yanis, qui connaît très bien les BM, sait que le pont sur une BM, c'est peut-être la partie la plus fragile.
Bah ouais, ça peut se casser. Hein. Encore que la mienne a une chaîne. Mais bah, moi, je bien revenir sur ta moto. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ta moto? Pourquoi une GSBM? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de moteurs qui voyagent avec cette machine, hein, mais...
Cette moto, je l'avais déjà depuis longtemps. J'avais déjà depuis 9 ans. Et j'ai décidé de partir avec ma moto. Donc, j'ai pas choisi cette moto dans le but de faire le tour de l'Afrique. Ouais. Encore que quand je l'ai achetée, je me souviens avoir dit c'est cette moto-là, un jour, je l'emmènerai quelque part. Mais...
T'as jamais regretté de pas avoir une moto un peu plus légère dans certaines conditions?
Ça m'est arrivé quand je tombais.
Ouais. Dans la boue, tout ça. Ouais. Parce qu'on m'a souvent dit. J'ai un copain là qui a fait un petit peu de piste en Afrique. Il me disait le secret pour l'Afrique, c'est d'avoir une moto légère.
Ouais,
et il est toujours étonné de voir les routards partir avec des GS en particulier.
Ouais, mais cette moto a le gros avantage d'être très très solide et le gros inconvénient d'être très très lourd.
Ouais.
Bon, maintenant une moto légère, est-ce qu'une moto légère, genre une petite KTM, serait beaucoup plus joueuse, beaucoup plus maniable et beaucoup plus. Mais est-ce qu'elle aurait fait les 87 000 km sans avoir. Je sais pas.
Alors, voilà, donc le pont il est HS. Hein, donc, comment on fait pour trouver un pont de BM en 50 à Madagascar? Dis-nous.
Ben, on appelle les copains en France. Voilà. On appelle les copains en France et les copains en France se font rapatrier les roulements. Et les envoie.
Tu trouves toujours des gens qui vont te mettre dans un garage, ils proposent leur garage, hein, pour démonter et tout.
Bah, j'avais croisé.
Toujours, on voit une photo, hein, où t'es. Ouais. Oh, bah, c'est cool, t'es en train de boire une bière, tout. La moto, quoi, ils vont démonter.
Ouais, bah, on croise des gens qui sont impressionnés par le voyage et qui sont très volontaires.
Tu fédères un peu autour de toi, les gens.
Hein, ouais, c'est vrai.
Et donc ça dure combien de temps, donc, cette réparation?
Tu vas me dire. Moi, j'étais au sud-est de Madagascar, à Manakar. Et donc, je rapatrie la moto à la capitale via un camion, un transporteur de bananes.
Oui, c'est ce que tu expliques.
Ouais. Moi, je la suis en train, en taxi brousse, etc. Et je me fais rapatrier les pièces à la capitale. Et là, je trouve un gars sympa qui s'est vraiment porté volontaire pour me faire part, pour me mettre à profit son expérience et ses outils. On a passé 15 jours dans son garage. Ouais.
Sauf une fois où BMW France s'est trompé dans les rayons, dans la taille des rayons.
Ouais, alors est-ce que ça c'était au Tchad quand j'ai cassé la roue avant, j'ai 18 rayons qui ont explosé et j'ai voulu essayer de réparer la roue en me faisant. Donc là j'ai réussi à me faire rapatrier des rayons et il y a eu une confusion entre 17 pouces, 19 pouces et c'était la roue avant qui avait lâché.
Bon, tu vas me dire, c'est pas un problème, il n'y a que un mois à attendre, quoi.
Voilà,
c'est qu'un problème de rayon. Ici, tu retournes en 5 minutes chez le concessionnaire, tu lui dis, attends, qu'est-ce que tu m'as foutu là? Mais ouais. Bon.
Ouais, mais finalement, j'ai abandonné l'idée d'essayer de réparer la roue parce que la jante était trop voilée et j'ai réussi à me faire rapatrier une jante complète.
Ah, complète, bah, c'est vrai.
Et finalement, c'était un bien pour un mal.
Et problème aussi de démarreur aussi, je pense qu'il y avait un problème de démarreur.
Ah, le démarreur, c'est la seule grosse déception de cette moto. J'ai changé 3 fois le démarreur quand même sur le voyage. Le Bandit se dégage toujours.
Voilà. Et c'est pourquoi que c'est pour ça que le kick, tu vois, finalement.
Ça c'est un gros manque sur cette moto. Voilà. Il y a trop de compression, il faudrait installer un décompresseur et
oui.
Un kick. Ouais.
Bah, comme un 500 XT, voilà.
Voilà, tout à fait. Going down the road, feeling bad. Going down the road, feeling bad. Going down the road. Feeling bad, yeah. Don't want to be treated this way. Going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Leave that bad old girl of mine behind. Yeah, don't want to be treated this way. Going where the climate suits my clothes. Yeah, I'm going where the climate suits my clothes. Wait, I'm sorry.
chilly winds don't blow. Yeah, I don't want to be treated this way.
Presque une heure d'Afrique aujourd'hui dans le magazine de la moto, c'est génial, c'est fantastique. Yanis,
écoute,
tu te rends compte
Oui, c'est extraordinaire. Et moi, je voudrais poser une question à Luc, enfin peut-être plusieurs d'ailleurs. Luc, le voyage fait peur, l'Afrique fait peur. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné lors de ces 2 ans et demi de voyage?
J'ai jamais eu peur au moment présent. Ça m'est souvent arrivé d'avoir peur par anticipation, parce que ça m'est arrivé par exemple en République démocratique du Congo d'arriver dans des zones où je me souviens avoir passé une nuit dans une mission catholique où le curé était un nouveau curé, parce que le précédent avait été égorgé quelques mois avant. Et dans la zone où je m'en allais, la République démocratique c'est un pays qui est proche d'être un état de non-droit. Le gouvernement arme des militaires, des policiers, etc. Il y a beaucoup de mercenaires, des gens. C'est un peu l'anarchie complète dans certaines zones. Et en plus, il y a des zones diamantifères. Un blanc qui se promène dans ces zones-là est forcément, au regard de certaines personnes, un quelqu'un qui transporte des choses de valeur. Donc ça m'est arrivé souvent d'avoir peur par anticipation. Et puis ça m'est aussi arrivé d'avoir peur rétrospectivement quand il s'était passé quelque chose, parce qu'au moment présent l'adrénaline fait qu'on vit la chose, on analyse chaque mouvement, chaque fait et geste, et on réalise pas trop, et un peu plus tard on se met à avoir très peur.
D'accord, et à contrario, si tu devais retenir quelques moments de grande joie dans ce voyage, quels ont été les moments les plus forts dans ton esprit là, ce qui te reste
C'est global, c'est l'accueil des gens, c'est la qualité des sourires, des traditions justement d'accueil, et puis c'est aussi l'émerveillement par rapport à des choses qu'on connaît pas, des modes de vie, à des cultures, à des paysages, à des climats, enfin le dépaysement en général.
Et est-ce que tu penses que la moto est un passeport pour rentrer en contact avec les gens?
Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense que les locaux étaient très impressionnés par la machine. Hein. Ils voient pas tous les jours passer un machin pareil dans leur village. Donc ça a attiré énormément de gens. Et je pense que ouais, ça permet de créer des contacts rapidement. Mais bon, je pense que c'est surtout lié au fait d'être un étranger, d'arriver chez eux. Quoi.
D'accord. T'as rencontré beaucoup de motards là dans ton périple là, dans les deux ans et demi
hein. En Afrique de l'Ouest, j'ai pas rencontré un voyageur. Par contre, l'Afrique de l'Est, c'est une autoroute à promenade. Ouais. Il y a énormément. Encore que l'actualité avec le Soudan, l'Égypte, c'était a priori plus calme que ça ne l'a été. Mais j'ai rencontré beaucoup de voyageurs en Afrique de l'Est.
Ouais. D'accord, pas seulement qu'en moto d'ailleurs.
Ouais, moto, 4x4 surtout, et quelques motards aussi.
D'accord. À force de t'écouter comme ça, tu nous donnes envie d'y aller, quoi. Si tu devais donner un conseil, la première chose qui te vient à l'esprit, à ceux qui voudraient aussi s'offrir une aventure comme celle-là.
Partir.
Pas beau, ça. Faut oser, c'est ça, non?
Non. Bah, le plus dur à faire, on dit toujours, hein, le plus difficile c'est pas de faire les choses, c'est de prendre la décision de les faire.
La plus grande prison c'est la nôtre, c'est notre tête.
Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Non, il faut partir, il faut se jeter à l'eau et puis il faut pas trop chercher à préparer justement parce que de toute façon on va prendre les pièces de rechange qu'on n'aura pas besoin, on va anticiper sur un tas de choses qui serviront à rien et de toute façon on trouvera tout ce qu'on a besoin sur place.
Voilà, donc il faut partir avec un minimum de choses.
Ouais,
moi laisser à la maison.
J'ai fait énormément de restes. Bon, c'est vrai que je suis parti avec trop de choses, mais à la limite, il vaut mieux partir avec trop de choses à offrir sur place et à délester sur place que pas assez. Mais bon, moi, c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, c'est de me mettre trop chargé au départ.
D'accord, après Madagascar, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Alors, Kenya, ça, c'est le parc, c'est le zoo, ça. Non, c'est pas, ouais, la réserve, ouais, ou la réserve, hein, ou les gros éléphants, les tigres, ouais. Les lions, je sais pas si toi, t'en as vu ou.
J'ai vu énormément.
T'as roulé dans la savane avec, non
j'ai roulé, avec des zèbres.
J'ai roulé
avec des zèbres.
J'ai roulé avec des zèbres, et ça, c'était au Botswana.
Et alors, qui c'est qui a gagné? C'est le zèbre.
Ah, ils ont gagné, ils faisaient trop de poussière. J'ai roulé avec des autruches, avec des
autruches,
des impalas, et tout. J'ai roulé avec des éléphants.
Et pas avec des lions, ils n'ont pas couru après toi.
J'ai vu des lions. Ma grosse frustration par rapport aux animaux sauvages en Afrique, c'est de ne pas avoir vu de lions mâles. Ouais.
Parce que j'ai vu, dans ton blog, tu marquais, tu avais écrit, tu dors sous ta tente, t'as pas peur comme ça dans des pays.
Non, j'ai pas eu peur parce que.
Enfin, d'animaux ou de personnes.
Parce que je me suis renseigné dans tout ce qui est Afrique australe, que ce soit Zambie, Namibie, Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe, tous ces pays-là, il y a énormément de gens qui se baladent. Bon. Pas forcément en moto, mais avec des 4x4, avec les roofs tentes, etc. Et tout le monde m'a dit que même au sol, une tente, ça s'était jamais vu qu'une tente soit attaquée par un animal sauvage.
Par contre, des fois, t'as un serpent qui rentre dans la moto.
Ouais, ça m'est arrivé au Zimbabwe. Il y a il y a beaucoup de petits serpents qui vivent dans les arbres, qui sont en fait a priori pas dangereux. C'est des petits constricteurs qui se nourrissent de lézards, de souris, etc. Et il grimpe dans les arbres. Bon, il a pris ma moto pour un arbre. Et quand j'ai démarré, le moteur chauffant, il avait plus qu'une issue, c'était de monter.
Sale bête.
T'imagines un serpent entre les jambes, quand même.
Et il est monté entre le tableau de bord et le réservoir, et il était devant mon nez.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Kiss me goodbye, raging higher. raging higher, 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 raging higher.
Un homme malmené par un quotidien que la crise financière tourmente décide, début 2010, de casser tous ses repères et décide de partir faire le tour du monde. Aujourd'hui, c'est avec Éric Lobo. En fait, on pourrait faire un film là-dessus un peu, Éric. Finalement.
On y travaille.
Ça commence comme ça, l'histoire. C'est que.
La crise financière.
Tu perds beaucoup d'argent parce que
Je perds tout.
T'es un homme d'affaires, en fait.
Exactement.
Et tu perds tout.
Je perds tout.
Là, c'est. Je perds
tout et dans une période, très courte, en quelques semaines, autour de février 2010, je perds mon emploi, je perds mon job, je perds 20 ans d'épargne. Je me retrouve là, la crise financière m'a rincé. Je me retrouve à la rue. Ma femme repart aux États-Unis.
Ça va pas du tout là.
Donc je me dis que je peux aider mes parents à les aider un peu. Mon père de se faire opérer à cœur ouvert. Et dans la semaine, ma mère meurt de la trouille et mon père fait une crise cardiaque. Voilà, ça commence comme ça. Donc ça, on a le choix à un moment donné, sur le balcon du cinquième, on se dit est-ce qu'on se jette ou est-ce qu'on continue, et comme c'est pas vraiment un départ très héroïque, on décide de trouver une solution, et la solution c'est profiter de la passion de la Harley pour aller se faire du bien sur une distance incroyable et de partir comme ça pour cingler vers l'Est sans carte, sans GPS et de se dire... On y va, quoi, il faut y aller. Partir ou mourir, certains magazines ont dit, mais voilà, c'était un peu ça.
T'as plus d'argent, comment tu fais pour t'acheter l'Harley ?
Ah ben ça, c'est très intéressant. Alors, je le conseille à tous les auditeurs. Bon, j'ai fait un truc qui se fait pas, c'est que j'ai arrangé un peu une fiche de salaire, des fiches de salaire en disant que j'enlevais la mention en préavis parce que on m'a expliqué qu'avec ça, c'était compliqué d'avoir un crédit. J'ai payé deux échéances à 250 euros et je me suis dit si je meurs en voyage, ça sera mis sur le compte de la crise.
D'accord, ben voilà, écoutez.
Donc je suis parti avec une moto qui ne m'appartenait pas et, ouais. Et voilà, je suis parti comme ça.
Alors, comme ça, tu l'as rodé, tu peux la rendre, maintenant tu es rentré. Là,
alors, entre temps, je me suis débrouillé, j'ai réussi à la régler, on m'a aidé pour finir de la régler et puis voilà. Et
comme, alors, ta moto, c'est une
Road King Police,
avec des sacoches toutes blanches. Ah, maintenant, elle est blanche, il y a plein de signatures dessus.
Alors, elle était blanche et moche au départ, un peu fade. Et j'ai décidé de donner l'accès à mon réservoir pour y coller les premières signatures qui avaient pour objectif de me remonter le moral en cas de grand moment de solitude. Et effectivement, j'ai commencé par mes filles. Ça me tenait à cœur d'avoir mes filles avec moi, d'avoir mes amis qui m'ont encouragé à aller vivre mon rêve. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis c'est parti assez vite. De façon un peu désordonnée, on a commencé à signer sur les pare-chocs, sur les machins. Et donc là aujourd'hui, j'ai une moto qui est unique et qui porte avec elle beaucoup de messages et beaucoup de témoignages d'amour et d'amitié, d'encouragement, etc.
Bon, Éric, on appuie sur le démarreur. On part.
On démarre.
Bon, allez, comment on fait pour prendre une direction ? Parce qu'il faut que tu choisisses
la
route.
Alors, la direction, elle est simple. C'est que, bon, j'ai l'origine, j'ai un profil dual d'homme d'affaires et en même temps, je suis un peu grand reporter. Ça, j'en parle pas trop parce que c'est une chose que je cache au monde des affaires et au monde du grand reportage, je cache que je suis un homme d'affaires. Donc, c'est un peu compliqué. En France, on n'est pas très ouvert là-dessus. Donc, il vaut mieux pas. Et donc, je décide de partir comme ça vers l'Est, sans carte, sans GPS, avec très peu de préparation. Et voilà, il fallait y aller, quoi.
Alors c'est quoi cette histoire de protéger par des backers ukrainiens, la folie des fiestas aussi?
Alors quand tu as décidé de te reconstruire et de te faire du bien, c'est un peu le chemin de sa résilience. Quand on a décidé de partir comme ça et de se reconstruire, on essaie d'aller à la rencontre des autres, et c'est pour ça que j'ai pas pris de moyens j'ai évité le GPS et la carte, justement parce que c'est un moyen qui est exclu en fait des rencontres. Et il est important de se perdre quand on part à l'aventure. Et pour moi, ce qui est important, c'était de me faire malmener aussi un peu. Et j'ai rencontré à Kiev un groupe de bikers qui a commencé à m'expliquer qu'ils allaient me donner des contacts pour m'encourager vers mon expédition. Et les contacts, alors il y a pas mal de jolies phrases. Il faut que tu ailles voir Andrei qui est à Yekaterinbourg, c'est 4500 kilomètres. Mais il parle quoi, Andrei? Il parle russe. Et comment je fais? T'apprends le russe. Et ça a commencé comme ça. Et puis, est-ce que tu crois en Dieu? C'est important parce que tu vas en avoir besoin. Et tous les témoignages comme ça, c'était encourageant parce que je me suis dit, c'est vrai que généralement, on se rend compte que les gens se font un peu peur tout seuls, et là c'était intéressant d'aller vers l'inconnu. Moi, l'inconnu m'excite plus qu'il me terrorise. Donc,
la vodka ça. Moteur aussi, parce que forcément là-bas en Ukraine,
la vodka, c'est plus
la boisson favorite.
La vodka, ça arrive plus tard. L'Ukraine, c'est plutôt le Jack et c'est plutôt le whisky. Whisky, siski, rock'n'roll. Donc, pour la belle expression whisky, siski, rock'n'roll, je demande à une gamine de me dire, mais Siski, c'est quoi? Elle défait son chemisier, elle ouvre son chemisier, elle prend ses seins à pleine main et elle me dit Siski, c'est ça. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, ils avaient le sens du partage et de l'amour. Tout le monde s'embrasse, toutes les filles s'embrassent sur la bouche. Moi, je connaissais personne, donc je me suis rendu compte qu'ils étaient très accueillants. Je me suis dit, ça, c'est pas un mauvais chemin pour aller sur les chemins de sa résilience.
Donc tu pars en direction, tu traverses donc...
Je pars à l'est.
Dans l'est, hein, à l'est.
Je pars à l'est, je rentre en Russie, et je pars à l'est et je file.
Bon, on a encore un peu de temps quand même. Allons-y. Vous avez encore 5 minutes. On va... oui. Donc on me fait signe qu'il faut passer à mon cette musique.
Heading down the track, baby, I ain't coming back. Heading down the track, baby, I ain't coming back. Baby, I ain't coming back. Waiting, waiting, waiting for the train. Waiting, waiting, waiting for the train. All I want is peace of mind. All I need is time to heal. All I want is peace of mind. All I need is time. I was heading through the hills with guitar on my back. And I was heading through the hills with the mojo in my sight. I was feeling low and down, gonna lose everything. And I was feeling low and down, got no love for anything. All I want is peace of mind. All I need is time to heal. All I want is peace of mind. All I need is time. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Heading down the track, heading down the track, baby, I ain't coming back. Waiting, waiting, waiting for the train. Waiting, waiting, waiting for the train. All I want is peace of mind. All I need is time to heal. All I need is time.
a mojo in my sight. Got a mojo in my sight. And the John the Kangaroo never coming back. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy on me.
Voilà, nous sommes en compagnie de Eric Lobo, l'aventurier, l'homme qui a fait le tour du monde. Écoute, en fait, c'est inquiétant avec toi. J'ai l'impression que c'est très simple faire le tour du monde. Pourtant, ça va être, c'est compliqué. Il faut prendre.
Non, alors,
il faut manger, il faut dormir, il faut.
Il faut manger, il faut dormir.
On a un guide de parcours. Là, tu passes des endroits où il ne doit pas y avoir des stations comme ça, des routes. Surtout, on a la Davidson, un road king.
Alors effectivement, avec vos auditeurs, on va avoir un conflit de communication. C'est que là, normalement, ça se fait avec un Africa Twin ou un GS200.
Voilà, c'est plutôt, oui.
Mais c'est pas très rock'n'roll. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'avoir un contact plus direct avec les populations et peut-être colorer la relation avec les autres. Et c'est vrai que quand on voyage avec un road king, avec une Harley en Russie, la Russie adore les motards. Ça facilite un peu la relation. Effectivement, il y a des moments où je suis pris en charge par des populations qui peuvent être considérées comme infréquentables, comme des bikers néo-nazis russes qui ont fait l'Afghanistan, la Tchétchénie. Et donc, c'est des types qui ressemblent plus à des brutes. Mais à côté de ça, ils vous donnent beaucoup d'amour, ils s'occupent de vous, ils s'occupent de votre protection à chaque passage. Ils vous remettent à la sortie de leur ville. Et la ville suivante, elle a 1800 bornes. Donc, c'est des étapes qui font chaque fois 900, 1000 bornes. Alors, on dort où? Normalement, en Russie, on n'a pas le droit de dormir dehors, on n'a pas le droit de dormir chez l'habitant. Et donc, on est en infraction dès le troisième jour. Donc j'ai pas d'autorisation, j'ai pas d'assurance, je suis un peu comme un hors-la-loi, je me cartonne une Lada, je finis pratiquement en tôle, et donc je finis en tôle, et le lendemain je suis comme le super-héros, photographié avec les mecs, qui me souhaitent bonne route pour que je puisse continuer, avec ma fourche tordue, ma carrosserie pliée, et on répare ça dans un garage de Novosibirsk, avec une pompe hydropneumatique pour détordre les fourches et les trucs. Donc, c'est assez rock'n'roll comme voyage, et puis après on file comme ça jusqu'au lac Baïkal et puis on fait d'autres rencontres, des rencontres heureuses et des rencontres malheureuses. Et dans les rencontres malheureuses, on peut faire de mauvaises rencontres. Et un de mes collègues russes que je rencontre sur mon voyage, je se fais flinguer au retour. Donc c'est un voyage qui est quand même assez brutal, tout en étant c'est un vrai voyage d'aventure. C'est plus que on va faire du tourisme, on va se perdre avec des pneus à tétine au milieu de la Mongolie. Ça pourrait être, je pense que c'est pas la même force, mais en même temps, mon besoin c'était renaître. Et quand on veut renaître, il faut passer à l'épreuve des flammes. Donc c'est un bon moment quoi.
Donc tu traverses la Russie,
j'arrive à Vladivostok. Vladivostok, je saute un bond de cabri sur la Corée, de la Corée on passe au Japon.
Au Japon,
et puis
oui.
Après il faut aller retrouver nos amis bikers.
Là tu rames.
Là je fais une promesse. J'envoie la bécane en bateau. Et donc j'ai fait une promesse aux bikers russes, c'est d'aller faire signer ma moto, comme je disais tout à l'heure, par un membre de la famille Davidson. Et là en l'occurrence c'est Bill Davidson à Milwaukee. Et ensuite, deuxième promesse, c'est de traverser Ocean Drive sur Miami Beach, debout sur la Seine.
Alors cette photo, elle est pas truquée, hein, parce qu'on voit les disques ils sont ventilés, et donc on voit bien que ça tourne.
Non, mais il faut pas oublier que ce tour que je fais, c'est un tour, les photos, je les envoie direct.
C'est une photo avec la radio, c'est difficile de montrer une photo. On va les décrire quand même. T'es debout donc sur ta machine, hein.
avec des baskets fines pour pouvoir avoir un appui sur la selle qui est.
Donc on se dit, mais comment il a fait pour tenir la poignée de l'accélérateur? C'est facile parce que sur une Harley, il y a une petite molette en dessous pour tenir le régime.
Voilà, on accélère, on bloque la molette en dessous. Puis à 60, c'est une moto Harley Davidson, c'est un rail, c'est pas un exploit non plus intersidéral, hein, donc on monte dessus.
Donc là t'es à Miami, tu te fais arrêter par les flics, parce que à Miami t'as pas le droit de faire
je fais ça à 7h du matin entre deux rondes de flics, donc on fait une première série d'images.
D'accord.
Qui est dans la grisaille, qui est assez moche, et on refait un deuxième tour. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il faut aussi faire de la communication pour pouvoir continuer à partager ça veut dire partager avec la presse, donc il faut faire des trucs un peu plus forts que que juste une balade.
T'es quand même parti avec 800 euros seulement, hein.
Donc 850.
Là, t'as fait une bonne partie déjà de la planète.
Voilà. Mais bon, les Russes, c'est la...
T'as encore de l'argent ou comment tu fais là?
Non, non. Pour, là, on m'envoie de temps en temps.
On m'envoie. Explique-nous, parce que moi, je comprends pas. 800 euros faire le tour du monde en Harley.
Alors là, il y a un truc. La Russie, ça coûte rien. L'essence coûte rien. Dormir chez, voilà, dormir dehors et manger, ça coûte rien non plus. Et puis après, c'est vrai que comme j'ai réactualisé un bouquin que j'avais fait, j'ai reçu un petit peu de sous comme ça de temps en temps qui m'a permis d'avancer quoi.
Voilà, donc bah, on continue un peu le trajet, donc tu reviens, tu fais le tour donc
alors genre
après tu repasses j'ai plus parce que notre voilà on va reprendre le truc.
Bah, je pars
donc États-Unis et puis Daytona,
je redescends à Daytona
forcément. Oui, mais vous avez encore un peu de temps ou
on peut
encore se faire un petit morceau de musique?
Oui.
Parce que vous devez partir, vous avez des signatures à faire.
On prend encore un peu de temps.
On se prend 5 minutes. Ah, c'est bien Arnaud, bon. Sympa.
36 000 km d'aventure autour de la Terre. Aujourd'hui avec Eric Lobo dans les studios. Eric, on va terminer ce tour du monde. Non, c'est pas facile, hein, en deux fois 5 minutes, trois fois 5 minutes. Mais bon, il faut.
Il faut apprendre à
synthétiser. Hein, voilà, il faut synthétiser le truc. Voilà. Donc les émotions les plus fortes que tu as ressenties. Bon, mis à part après en Ukraine, là. Mais après, il y a quand même autre chose. Quand même.
Oui, on va pas parler des filles.
Hein si, bah, allez.
Parce que sinon, ça va faire venir beaucoup de monde. Non, ce qui est effectivement dans les épreuves intéressantes de roulage pour les motos, c'est les étendues russes sont des étendues qui sont infinies et on peut vivre des sensations qui sont assez rares, comme par exemple la dernière épreuve, une des dernières épreuves pour clôturer cette traversée du continent de cette partie russe, c'est justement de faire une étape de 3100 km d'une traite en 49 heures avec deux stops un peu imposés qui sont des stops où on tombe un peu dans les pommes parce qu'on ne peut plus rouler, mais c'est des zones sur lesquelles il y a très peu de stops de carburant et c'est des zones qui sont très dangereuses parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de police et donc c'est là que mon copain s'est fait s'est fait assassiner et donc il vaut mieux éviter, c'est une façon un peu de choisir sa mort, il vaut mieux mourir sur la route d'un accident plutôt que
les bottes aux pieds.
Voilà, les bottes aux pieds plutôt que voilà que dans une tente assassiné hein. Comme voilà, comme
lits,
un lâche.
Les lits sont dangereux, les lits. Hein. C'est là oui. Qu'il y a plus de morts hein, dans les lits. Hein.
Oui. Oui. De la crise cardiaque. Non, après les sensations, c'est vrai que ça c'est la sensation la plus dure quand on perd quelqu'un. C'est les sensations les plus belles, c'est les relations d'amour que les gens vous donnent naturellement sans que vous leur demandiez quoi que ce soit. Et le point fort de ce voyage, c'est que l'amitié biker est quelque chose d'assez indéfectible. Et voilà, c'est. Donc, je vais répondre à d'autres questions vite fait.
Retour Miami. Là,
alors le retour
bien,
Miami, ça
en Europe.
Voilà, le retour voilà. Miami, ça se passe moyen puisque ma femme a quitté entre temps. Elle habite à Miami, donc je retourne la voir. J'essaie de voir si ça peut redémarrer. C'est plus un morceau de vie, hein, ce livre de Transboréal qui s'appelle Road Angels. Et puis le retour est compliqué. Je renvoie ma moto de Miami à Bremerhaven et je fais le retour le plus stupide. Je décide de partir à 4h de l'après-midi pour arriver à 3h à 4h de l'après-midi pour arriver à 3h de l'après-midi à Paris après 1400 km, toujours sans carte, sans GPS, sous la neige, des pneus lisses, les serpentins qui volent autour de vous, c'est assez magique mais c'est assez stupide mais bon voilà, c'est fait sans mal et là on a fait 36 000 km, on se dit voilà, la moto est pas trop cassée, le pilote non plus et on pense qu'à une seule chose, c'est se dire la prochaine étape. Bon, alors, j'espère qu'on va la faire.
La Harley, ça a tenu le coup ou...
Alors, la Harley,
dis-le, franchement.
Voilà, hein. Je vais être assez décevant pour tous les BMistes.
Je savais bien qu'il allait dire. Ouais, super, ça.
J'ai utilisé un jeu de pneus.
Regarde.
J'ai utilisé un jeu de pneus, j'ai fait 45 000 bornes.
Mais tu aurais pu le faire en BM aussi, hein, c'est vrai.
J'aurais pu le faire, mais je préfère les filles, moi, tu vois. Le problème, je préfère les m'arrêter.
Tu aurais pu le faire en MZ, tu vois, MZ, c'était.
Alors, j'ai été accompagné avec des gens qui l'ont fait en Oural.
En Oural, ben oui.
Ce qui était aussi stupide que moi, parce que l'Oural, c'est fait pour faire le tour du village. Oui. Et la BM, c'est fait pour rouler sur des highways. Et puis là, pas pour rouler sur des pistes défoncées. Et le message le plus joli que l'on m'ait fait, quand on a roulé sur la terre pendant très longtemps avec un Road King, quand la moto est tombée, on m'a dit on croyait, on te prenait pour un héros d'être venu jusqu'ici. En fait, t'es un grand malade. Et voilà. Donc, mais ça, porter un sac à dos avec des cailloux, c'est quand même mieux pour se rapprocher de Dieu, hein, donc c'est c'est le circuit de circumambulation des Tibétains.
Oubliez vos cauchemars et faites confiance à vos rêves.
Exactement.
Voilà. Bon, Christine, tu meurs d'envie de parler du bouquin d'Éric.
D'Éric Lobo, donc Road Angels. Donc là, on retrouve effectivement tout ton voyage.
Voilà, on retrouve le périple et c'est vrai que c'est une aventure humaine avec en toile de fond un tour du monde. Mais c'est pas une visite touristique des pays que l'on traverse avec les bonnes adresses et les trucs. C'est pas le petit futé. C'est un livre d'aventure plutôt.
Voilà, donc à découvrir avant d'en faire un film peut-être.
On y travaille.
Voilà, donc à découvrir. Moi j'ai juste retenu une phrase là parce que j'ai pas eu le temps de le lire puisque tu me l'as dédicacé hier soir. C'était le dernier. C'est l'expérience n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons.
C'est ce que l'on en fait, ouais. Et voilà, tout est dit
dedans, voilà. Donc à lire, allez, Road Angel. Donc,
ce qui est important, c'est l'expérience que l'on en retient de ce type de voyage.
Là, tu repars à Aix-en-Provence.
Je repars à être à Aix-en-Provence. Je finis, je prépare le prochain trip l'année prochaine avec une Harley Davidson pour encore énerver les BMistes et pour faire un voyage un peu off-road avec dans un cadre spécial d'une amplitude thermique de 100 degrés Celsius. Donc on va rouler sur la glace, je vais rouler sur la glace, on va traîner certainement une luge, ça va être un voyage d'aventure assez fort.
Et ça, et où ça ?
Sibérie, Détroit de Bering et la redescente par le pays Esquimau, la route des convois de l'extrême sur la glace.
Attention aux ours, hein,
on y travaille.
Merci de présenter quand même Arnaud et puis Franck aussi, hein. Bon, prononce bien. Vas-y. Votre club, c'est Broken. Je préfère que tu dises. Donc vous briefez Eric, hein, parce que il connaît pas la région. Hein.
Ouais.
C'est la première fois que tu viens, Eric, ici dans le Nord.
C'est la deuxième fois.
La deuxième fois.
Et chaque fois, je suis toujours extrêmement bien accueilli et à tel point que j'ai du grand soleil chaque fois que je viens.
Voilà. Donc un dicton qui dit dans le Nord, hein, tu braies deux fois. Hein,
voilà.
Quand tu viens et quand tu t'en vas. Voilà, donc vous l'avez piloté un peu ici dans la région parce que vous avez
Essayé de lui donner un coup de main par rapport il y avait un truc qui était prévu qui était annulé avec Eric et puis nous on a essayé de lui donner un coup de main pour avancer pour que ça se passe bien et puis qu'il vende ses bouquins aussi c'est le but.
Oui en plus voilà. Voilà. Bon ben bonne fin de.
En tout cas, j'ai reçu.
Ça,
je tiens à remercier en tout cas tous les amis ch'tis. J'ai reçu un accueil assez extraordinaire. Et c'est la deuxième fois que je viens et je promets que je reviendrai encore. Hein,
parce pas bien,
que...
bah écoute, nous, quand tu veux. Hein.
Ah non, c'est vraiment un accueil exceptionnel.
24 sur 24, tu sais, ici. C'est...
Et c'est des vrais enthousiastes. Hein.
Merci Eric, et puis bonne chance, bonne aventure encore. Hein. Tu nous fais rêver, en fait.
C'est ce que j'essaie de partager maintenant.
Voilà, très bien. Merci Arnaud, merci Franck.
Merci à toi, merci à vous.
Allez, retour en Afrique avec Luc Cottrel. On va terminer donc ce grand voyage. Je rappelle, 2 ans et demi, 85 000 km en BMW, hein, 1150. Donc c'est pas une GS, c'est un GS.
1150 GS.
Donc après Madagascar, on a parlé du Kenya avec une course avec les zèbres. Hein, mais t'as perdu malheureusement. T'es arrivé deuxième. Ça arrive, tu vois. Le Soudan, l'Égypte. Alors l'Égypte, t'arrives en pleine au lendemain des élections.
J'arrive juste au lendemain des élections.
Alors c'est le délire, il paraît. Je sais pas.
Non, c'était. Je suis bien tombé, hein, juste après tous les problèmes qu'il y a eu là-bas avec les frères musulmans. Donc ils venaient d'élire le général Sissi, quoi. Morsi était en prison depuis peu. Ça s'est globalement bien passé au niveau politique. C'était très 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 calme. Par contre, les événements ont fait qu'il n'y avait aucun touriste. Donc c'était le bon côté du fait qu'il n'y ait aucun touriste, c'est que dans les.
Oui, mais
dans
par
les
contre, pour eux, c'est un gros problème, apparemment. Apparemment, t'as l'air un mec très calme, écoute, franchement pas violent, et voilà. Et là, tu dis sur ton blog qu'à un moment, il y a une agressivité hallucinante. Hein, et t'étais à deux doigts d'en arriver aux mains parce que en fait là-bas le moindre toi on va te considérer comme un touriste quand même, hein.
Ouais, j'étais touriste.
Il est alpagué par 3, 4, 5, 6 mecs, hein, qui veulent te vendre des choses ou te conduire à leur
forcément
hôtel.
Vu la situation à l'époque qui a engendré cette pénurie de touristes a fait que les gens qui vivent du tourisme souffraient énormément de ça et du coup le moindre touriste qui passait, c'était alpagué pour effectivement acheter des saloperies, des machins.
Voilà, et tu dis aussi que t'as souffert de la chaleur parce qu'il fait chaud à crever. Tu dis vraiment,
J'ai plusieurs fois souffert de la chaleur, la première fois au Tchad, 47 degrés, au Soudan, au Nord-Soudan, là c'est là où j'ai souffert le plus de la chaleur, je crois que c'est monté à 48 degrés, puis en Israël, Jordanie, là sur la mer Morte, dans la vallée du Jordan, là où il faisait aussi 48 degrés. Là.
Donc après l'Égypte, la Jordanie, Israël où tu passes des heures et des heures au checkpoint parce que...
Interrogatoire, 5 heures
d'interrogatoire. On démonte la moto de A à Z. C'était pour rejoindre un bateau. Hein, t'étais obligé de passer par là. Enfin, il y avait une annulation de bateau. Et...
C'est ça. En fait, mon plan initial était de prendre un bateau au nord de l'Égypte pour rejoindre la Turquie. Et puis finalement, les bateaux, suite également à la situation politique de l'Égypte, ont été supprimés. Du coup, j'ai décidé de traverser le Sinaï, enfin, du moins de longer la côte du Sinaï de Suez à Sharm el-Sheikh et de Sharm el-Sheikh à Aqaba. Et puis de traverser l'Israël. Du coup, j'en ai profité pour aller en Jordanie, visiter Petra et revenir en Israël, retraverser. traverser la Palestine et reprendre un bateau,
ah oui, quand même, ouais,
un bateau de d'Israël à
bon ben écoute à ouais. Et là donc ça sent un peu Bolzel hein, le tour du monde.
Ouais.
Hein, tu traverses la Méditerranée et tu te retrouves en Turquie.
J'ai pas fait la Turquie, du coup, en Grèce.
En Grèce. Ouais, alors, bah, je vais te laisser la parole à Yanis, hein, parce que tu sais que c'est un grec. Hein,
mais ouais,
un
vrai
grec. Je suis le grec de la bande. Alors, bon, j'imagine que la Grèce, après l'Afrique, ça doit paraître...
Ridicule
en termes d'aventure, mais...
Non, c'est un magnifique pays. J'ai adoré la Grèce, les oliviers, les grands espaces aussi. C'est un très beau pays. Bon, j'ai pas pris le temps de visiter suffisamment. Je suis resté un peu à Athènes et une amie m'a rejoint et on a juste fait l'île de Bé.
Et c'est là où tu as définitivement grillé ton embrayage.
Et là l'embrayage a souffert, ouais, parce que là il y avait un peu de montagne et puis l'embrayage qui était déjà très fatigué, que j'avais réussi à regagner une côte de réglage en enlevant des rondelles lors de ma première panne à Madagascar, et là il est hors côte là. Mais j'étais agréablement surpris parce que malgré qu'il commençait à avoir des symptômes de fatigue, il a quand même tenu de la graisse jusqu'à ici.
D'accord.
Et ça roule encore.
Alors Titi, qui t'a rejoint ici à Madagascar, c'est quelqu'un que tu connais
Ouais, c'est une amie. Ouais.
D'accord, voilà. C'est donc ça. Voilà. Loïc, dernière question, parce que là, il est 27. Donc...
Ouais, moi, j'avais envie de dire, voilà, quels sont maintenant tes projets, Loïc?
Ah, c'est une bonne question.
Un livre peut-être.
J'aimerais bien mettre tout ça à plat, ouais. Pour...
Bon, là, il faut faire le livre.
Hein, il faut que
ça marche.
Faut que je laisse décanter un peu et j'aimerais bien faire un petit montage vidéo aussi. J'ai pris quelques vidéos sur place aussi. Faire un petit montage vidéo et puis écrire. Ouais.
Et moi, je veux bien une BD aussi.
Une BD, mais j'ai aucun talent.
Non, mais il y a un de tes copains qui dessinait là, apparemment.
Ouais, Gilles Graziano qui a fait l'image sur le blog.
Il y a quoi faire.
Et Luc, tu parlais du Congo. T'avais pas la peur, mais tu t'as pas eu peur de te retrouver dans un récipient avec de l'eau chaude et
ça, c'est le cliché, de te faire cuire.
Non, parce que j'ai vu ça dans Tintin au Congo.
Ça ne se fait plus. Bon. Se fait
Par
plus.
Contre, deuxième question, au Burundi, il parle français, mais avec un accent belge, ça a dû t'étonner quand même là-bas, non?
Ouais, ça c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez rigolo de voir
des missionnaires qui ont appris.
Ouais, ils ont appris la langue avec les colons, donc du coup, ils ont l'accent des colons, forcément. Ça c'est assez rigolo de voir un Africain parler français à la belge.
Ah ouais. on peut refaire 3 émissions, même 4. Hein. Tu vas pouvoir venir parce qu'on n'a pas tout dit. Hein. Tu
as 37
puis traversé.
Je reviens quand vous voulez.
Voilà, et ça, je pense que.
Par émission.
Bah voilà, ouais. Dunkerque, ça va faire loin. Ainsi.
Mais tu sais que Kikinku organise un couscous fin novembre.
Oui.
Et que Luc Cotterel sera là. Il va exposer sa machine, un certain nombre d'images, de photos. Voilà. Et il y aura aussi un montage diaporama où on pourra le rencontrer et voir l'ensemble de ses photos.
Et puis c'est pas à toi que je vais dire ça, Luc. Luc. Pas Luc, c'est Luc. C'est Luc. Bah, les deux. Une citation. De machin, c'est si vous trouvez l'aventure dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle.
Okay. C'est de qui ça?
Paolo
Coelho.
Ah, okay. Voilà. Luc, alors là, fantastique, écoute vraiment, chapeau, on applaudit tous, regarde, on va tous applaudir.
Bravo.
Pour ce que tu as fait.
Merci,
franchement,
merci beaucoup.
Merci Christine et Laurent, c'était super la musique et puis même plus encore.
Ah ben c'est gentil, alors je vous dis au revoir.
Au revoir Laurent.